Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi, les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui, les 9h07, heure française, 11h07, heure qatari, c'est le grand jour, l'ouverture de la Coupe du Monde, RMC Radio. Officiel de cette Coupe du Monde de la FIFA 2022. Dispositif exceptionnel, chers amis, pour ce mondial. 300 heures, parce que 3 heures, c'est beaucoup. 300 heures de direct. Tous les matchs commentés. Un studio délocalisé au cœur de Doha. RMC va vous faire vivre les 64 matchs de cette compétition. Belle matinée, bon petit déjeuner au sommaire des grandes gueules du sport dans quelques instants. La une des GG, c'est un coup de tonnerre venu de Doha. Karim Benzema est forfait pour la Coupe du Monde. Est-ce une catastrophe pour les Bleus? 9h30, la punchline des GG, signé Hugo Lloris sur le brassard de notre équipe de France pour ce mondial. La confusion est encore totale. 10h, une parenthèse tout de même dans cette émission consacrée au mondial. Nous allons passer la seconde autour du 15 de France qui affronte cet après-midi le Japon. Est-ce un match pour du beurre? Et puis 11h, ce mondial sera-t-il forcément une fête? Ce sera notre bras de fer et ça va chauffer, évidemment.
RMC. Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Et je vous présente les grandes gueules du sport ce matin. Une grande gueule qui, comme Karim Benzema, ne sera jamais une légende à Saint-Etienne. Pascal Duprat, salut Pascal.
Salut JC, bonjour les amis.
Ça va mon Pascal?
Oui, tu as une belle entrée en matière, merci.
Moi, si je peux rendre service, évidemment, je suis toujours là pour toi mon Pascal.
Je le sais.
Une grande gueule qui, comme Karim Benzema, est souvent trahi par son corps. Marc Madio, salut Marc.
Salut.
Ça va les...
Ah non, Marc. Il n'est jamais trahi. Marc, les gens qui couinent sur ses appuis, il est toujours là.
Très bien.
T'es bien?
Toujours en forme.
Ouais,
en
pleine debout forme. Sur les pédales.
Valeur sûre.
Bientôt.
Ouais, alors, je ne sais pas pourquoi, mais en studio, on s'est mis aussi, pas seulement à l'heure qatari, mais aussi au climat, parce qu'il fait extrêmement chaud.
On a tombé le pull.
Ouais, à mon avis, on va même enlever le t-shirt dans pas longtemps. Hein. Une grande gueule qui, comme Karim Benzema, a été privée des Bleus pendant longtemps. Bon, elle, c'est juste parce qu'elle ne voulait pas y aller. Marion Bartoli. Salut Marion.
Salut les amis.
Pas tout le temps.
Il y a eu quelques petits conflits, on va dire. Tu sais, ça intéresse personne. Oui.
Faut jamais dire ça à Marc parce que là, le cœur.
Tu sais que ça n'est pas bien.
Sur le drapeau tricolore, donc c'est très compliqué. Mais on va pas faire un débat là-dessus aujourd'hui. On aura le temps, si vous voulez, un jour d'en faire un. Et puis une grande gueule qui, comme Karim Benzema, va pouvoir s'empiffrer pendant le mondial, foutu pour foutu. C'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Bonjour tout le monde.
Tu as déjà pris le billet de retour?
Ouais, dans un mois.
Ah oui,
mois,
parce que là ça commence à être compliqué. Là. Dans un mois, t'es optimiste, dis donc.
Jean-Louis.
Ah non, moi je serai dans un mois, quoi qu'il arrive.
Jean-Louis qui sera.
Ah ouais, d'accord, pistonné. Il est privilégié, d'accord.
Mais la Coupe du Monde a duré un mois, attendez, on est là pour travailler, nous.
Oui, bien sûr.
Notre GG en direct du Qatar lors de chaque émission des grandes gueules du sport. Comment ça s'est passé ton installation, mon Jean-Louis? Quelle est la spécialité locale? Est-ce que tu as dégusté des mets absolument délicieux?
Je sais pas qu'un ventre sur pattes, mais c'est incroyable, hein, quoi, l'image qu'on me fait.
Est-ce qu'on a le droit de citer des noms d'hôtel ou pas? Parce que moi, quand je jouais le tour à Doha, il y avait quand même deux hôtels très réputés à Doha. Donc, on a le droit de les dire à l'antenne ou pas?
Non, on peut pas trop. On peut pas, non, on peut pas,
je pense qu'on n'a pas les mêmes moyens que l'entreprise Bartoli, RMC. Donc, on n'est pas, pas au même endroit.
Surtout que c'était le tournoi qui m'invitait. Donc, moi, tu sais.
Ah oui.
Oui, bah, quelque part, Jean-Louis aussi est invité. En tout cas, on est très heureux de t'accueillir dans cette émission. Tu vas être redoutable avec les GG, évidemment. On va débuter avec cette citation de Marcel Carnet qui a dit un jour. Avec deux malheurs, on peut faire une catastrophe.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
J'ai échangé avec Karim, bien évidemment, pour avoir les tenants et les aboutissants.
Ballon d'or 2022, c'est pour toi Karim Benzema.
Il arrive ce ballon d'or.
Il entre sur cette pelouse.
Le petit sourire de Karim Benzema, beaucoup de...
Je sais pas combien de temps encore en fait. Quand je me lèverai le matin et ça deviendra dur d'aller à l'entraînement.
Attaquant, Karim
Benzema. Karim Benzema reconnu coupable de complicité de tentative de chantage.
Il a eu un petit souci.
Comme l'affaire Zaya, je vous l'avais raconté, pendant 5 ans il a été traîné dans la boue. Pour que le procureur termine par dire, au vu de la pièce qui innocente M. Benzema, je me demande ce qu'il fait dans le dossier.
Oui, mondial terminé avant même d'avoir commencé pour Karim Benzema, dont l'état de forme posait question depuis lundi.
Partie des tout meilleurs, et les tout meilleurs sont décisifs dans les grands matchs.
Désolé pour vous, mais je ne vais pas la commenter. J'ai deux matchs à préparer. Les 23 joueurs, vous les connaissez qui sont là, donc on verra ça après. Put a smell on you.
Quel destin pour Karim Benzema avec l'équipe de France. La nouvelle que redoutait toute l'équipe de France et tous les amoureux du football est donc tombée hier soir autour de 23h, heure française, 1h, heure qatari. Karim Benzema, blessé à la cuisse gauche, a donc dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde. L'objectif d'une vie vient de s'envoler pour le Ballon d'Or 2022. Une arme absolue vient de partir pour Didier Deschamps. La musique qui fout les jetons est cette question. Le forfait de Benzema, est-ce une catastrophe pour les Bleus, oui ou non? Marc Madio.
Non.
Jean-Louis Tour.
Non.
Marion Bartoli.
Vous êtes dans le déni ou quoi? C'est pas possible.
Marion Bartoli.
Oui, bien sûr.
Merci. Pascal Couperin.
Eh bien, bizarrement, je vais répondre non.
Trois non, un oui.
C'est incroyable.
Les bras m'en tombent. Avant de débattre.
Alors, Ballon d'Or va pas jouer. Non, pas très grave. Mais franchement, c'est pas grave.
Avant de débattre, on va quand même retrouver l'un de nos envoyés spéciaux à Doha. C'est Loïc Braillet. Salut Loïc.
Salut JC, salut les grandes gueules.
Alors, c'est donc une soirée en enfer qu'a vécu Karim Benzema hier soir.
Oui, et tout avait pourtant plutôt bien commencé. Un échauffement normal, la chasuble des potentiels titulaires lors de l'opposition, ce qui était synonyme d'un retour à l'entraînement collectif pour lui. Et puis, quelques minutes après ce début de l'opposition, la star du Real s'arrête net sur un appui en pleine course en se tenant la cuisse gauche. La douleur semble vive. Il quitte immédiatement le terrain, pris en charge par le staff médical. Direction le centre Aspetar pour passer des examens. L'IRM donne son verdict assez rapidement. Lésion musculaire au quadriceps gauche. 3 semaines de convalescence et quelques minutes plus tard, le communiqué officiel de la FFF brise le rêve de Karim Benzema, obligé à 34 ans de déclarer donc forfait pour la Coupe du Monde, la dernière de sa carrière. Benzema postera ce message sur ses réseaux sociaux dans la nuit. De ma vie, je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe, comme je l'ai toujours fait. Alors, la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien. Rappelons que le règlement autorise Deschamps à rappeler un joueur jusqu'à demain soir, veille de match. Il faudra simplement que la FIFA valide le forfait médical de Benzema. La réflexion du staff a bien évidemment démarré dès hier. La nuit a sans doute été courte pour Deschamps. Ils sont tout de même encore 7 attaquants aujourd'hui dans la liste. Et parmi ceux qui pourraient être rappelés, on peut citer Wissam Ben Yedder, sans doute l'absent de la liste le plus expérimenté avec 19 sélections. On peut penser aussi à Moussa Diaby, Anthony Martial, Thomas Lemar, voire un novice, pourquoi pas. Il y en a dans la liste déjà. Un novice comme Martin Terrier. Deschamps pourrait aussi finalement décider de ne rappeler personne et faire confiance à son groupe qui se compose désormais de 25 joueurs. On aura la confirmation de cela dans la journée.
Merci beaucoup Loïc pour toutes ces précisions forcément qui nous font mal avec ce forfait de Karim Benzema. Est-ce une catastrophe pour les Bleus? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai trois noms, un oui. On va commencer par un non parce que là j'ai besoin d'explications. Jean-Louis Tour, pourquoi non?
Alors, non, parce que c'est le mot catastrophe qui, je pense, est exagéré. Catastrophe, c'est si on est éliminé et qu'on est sûr de rentrer à la maison. Là, c'est pas encore le cas. Et je pense, en plus, que connaissant Didier Deschamps, il va se servir de ça pour justement monter son groupe, que dans l'adversité ils sont capables de se construire, que désormais bah, plus personne attend l'équipe de France. Et je pense que cette attente, justement, moins il y a d'attente, plus l'équipe de France a de chances d'aller loin. Et ça on l'a vu dans l'histoire, en 2018, en 98, même à l'Euro 2016, on donnait pas beaucoup de chance à l'équipe de France et elle est allée loin. Et je pense que Deschamps va se servir de ça, qu'il reste un groupe dans un groupe France qui est quand même assez solide. On a toujours Kylian Mbappé quand même dans l'équipe. Et je pense que ce qui a posé problème lors de la précédente campagne à l'Euro 2021, c'est un espèce d'excès de confiance et en plus de ça, une difficulté pour faire jouer tous les éléments offensifs ensemble. Et bien ces deux problèmes-là, ils sont écartés avec l'absence de Karim Benzema. On sait comment on va jouer. On va reprendre l'équipe de 2018. Il y aura 7 titulaires toujours qui sont champions du monde. Donc je pense qu'en plus, le message de Deschamps va être simple. Maintenant, plus personne ne vous attend. Donc jouez comme je sais faire. On va jouer défensivement. On va jouer bien regroupé. On lancera Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé devant. Et je pense qu'avec au moins cette conviction que c'est comme ça qu'il faut gagner, l'équipe de France a encore encore des chances.
Ah, plus on perd de stars, mieux c'est. Donc ouais, si non, je comprends
moi,
bien.
Oui, l'optimisme de Jean-Louis.
Marion j'adore. Bartoli, tu peux répondre.
Non, mais moi j'adore l'optimisme de Jean-Louis, c'est fantastique. On n'a pas le meilleur joueur du monde, mais c'est pas grave, tout va très bien.
Et on l'avait
parce
pas il y a 4 ans.
On a gagné en 2018 sans lui. Donc franchement, écoute, même si Giroud a marqué 0 but, on est quand même arrivé à la gagner. Donc t'imagines la marge qu'on a, c'est colossal.
Moi, mais parce en fait, que notre force c'était la défense surtout à l'époque et je pense qu'on va la retrouver.
Oui, mais bon quand même en finale on met 4 buts. Donc voilà. Mais sur le fond de ton analyse, je suis d'accord avec toi, mais moi ce qui me gêne en fait, il y a deux éléments qui me gênent. Le premier, c'est que dans la communication à la fois de Didier, à la fois du staff de l'équipe de France et même de Karim, parce que je pense que vous l'avez suivi, il a donné un gros interview pour un de nos confrères qui va être diffusé demain soir. Ce soir, où il dit que ça va très bien, qu'il y avait vraiment qu'une toute petite douleur, que c'était vraiment plus de la précaution qu'autre chose, mais lui, il est sûr qu'il va jouer sans prêt à jouer. Donc, en fait, on s'était basé sur ces éléments-là, parce que finalement, bien évidemment, on n'est pas à l'intérieur et on savait pas et qu'on connaissait pas exactement la gravité de sa lésion. Et en fait, au final, je pense que Didier Deschamps, lui, il savait, parce qu'il a appelé Marcus Thuram, une fois que la liste avait été donnée, le rappeler, en se disant je prends un attaquant supplémentaire pour substituer éventuellement à Karim Benzema, lui savait qu'il y avait beaucoup plus de chances que Karim ne puisse pas jouer qu'il puisse jouer. Donc en fait, lui avait déjà prévu ce coup-là, mais ça reste quand même un coup dur pour l'équipe de France parce que de perdre son meilleur joueur, enfin un des meilleurs joueurs du monde et le Ballon d'Or, bien sûr que c'est un coup dur. Après, effectivement, sur les stats en équipe de France de Karim Benzema, c'est pas là où il performe le plus. Et là où je suis d'accord avec toi, Jean-Louis, c'est qu'on a été capable de faire sans lui, on a été capable de gagner sans lui. Mais là, ça commence à faire beaucoup de blessés, ça commence à faire beaucoup de tuiles. Donc tu sais, quand t'es dans une dynamique comme ça aussi négative et que t'as des mauvaises nouvelles les unes après les autres, ça va être compliqué de redresser la barre. Mais après, on a été capable de le faire. Là, je suis d'accord avec toi.
Et j'ai l'impression que voilà, c'est la méthode Coué. On a été capable de faire sans lui. Donc ça suffit non. Comme argument, Pascal.
Il
n'y
a pas que ça. Il n'avait rien écouté à ce que j'ai dit.
En fait, Pascal.
Moi, je voudrais simplement.
Alors, nous avons un appel à la prière en direct. Hein.
Je vous exactement.
Vous entendez un bruit de fond.
Très bien. Ah, et oui. on aura certainement l'habitude avec tous nos envoyés spéciaux au Qatar durant cette Coupe du Monde à Doha. Vas-y, Pascal.
Moi, je pense que c'est une catastrophe pour le joueur. C'est à lui qu'il faut penser d'abord. Donc, le Ballon d'Or qui revenait en équipe de France après un purgatoire long de 5 années. Il est exceptionnel. Il était exceptionnel avec le Real la saison dernière. Cela a permis d'avoir le Ballon d'Or. Mais cela dit, catastrophique pour l'équipe de France, je suis pas certain, parce que l'expression du sport collectif, surtout lorsqu'il s'agit de football et de l'équipe de France, eh bien, elle va s'exercer encore une fois, parce que nous n'avons pas pénurie d'attaquants en équipe de France, bien loin s'en faut. Et il y a plus que des remplaçants pour suppléer Karim Benzema. Donc, il faudrait poser la question aux sélectionneurs de toutes les autres nations favorites pour savoir si ce matin ils considèrent que l'équipe de France est hors course pour la victoire finale. Et il m'étonnerait fort que ces sélectionneurs-là soient catégoriques. La France a encore toutes ses chances. Et c'est pour ça que j'ai répondu non. Oui, c'est un coup dur. Mais non, l'équipe de France est encore bien vivante et va encore le prouver. Pour répondre à Jean-Louis, en tout cas, pour aller contre lui, je suis pas certain que l'équipe de France n'aurait pas bien défendu si Karim Benzema avait été là. Parce que pour construire une victoire finale au Mondial, bien sûr qu'il faut d'abord défendre. Et c'est pas parce que Karim Benzema n'est pas là qu'on va défendre davantage. On va défendre tout aussi bien.
Jean-Louis, tu peux répondre vrai, évidemment, mais... et après Marc Madiot, vas-y.
Non, mais bien sûr, ça c'est vrai, Pascal. Il y a juste quand même à l'Euro 2021, l'incorporation de Benzema était pas, je trouve, très fluide. Comment ils arrivaient à se trouver devant, les relations techniques avec les autres, ça m'a pas paru évident à l'époque et je trouve pas que depuis on ait vraiment trouvé ça. Alors qu'avec Giroud, ça me paraît un peu plus simple, un peu plus fluide et il y a aussi le passé avec Giroud.
Moi, j'adore votre optimisme, mais quand même, quand on perd le meilleur joueur, et je reprends ta phrase, est-ce que
c'est
si on demande.
Premier, c'est pas le premier qu'on perd, malheureusement. On a perdu Pogba, on a perdu N'Golo Kanté, on perd Benzema.
Oui, mais il faudrait aussi prendre en compte l'état de forme des joueurs que vous citez. Pogba, pas joué de l'année, Kanté, 2 ou 3 matchs. Et Benzema est depuis plus d'un mois maintenant en difficulté. Donc, est-ce véritablement, quant à leur potentiel du moment, est-ce que c'est véritablement un coup dur ou non? Tous les joueurs qui sont à Doha aujourd'hui sont en pleine forme et représentent un des meilleurs footballs au monde, puisque nous sommes les tenants du titre, je rappelle.
On va voir si Varane peut jouer ou pas.
Marc Madiot, j'aimerais t'entendre sur le sujet. Jean-Louis disait, ça peut souder les Bleus autour d'un objectif commun d'avoir perdu, toi qui es patron d'équipe, la Groupama FDJ, quand tu perds quelqu'un, est-ce que tu te sers de ça pour dire les mecs, on n'a peut-être pas la meilleure équipe maintenant parce qu'il nous manque des gens et surtout l'un des meilleurs joueurs du monde, mais on peut le faire.
On peut le faire tout simplement parce qu'il n'y a pas le choix. Je crois que Deschamps l'a très vite compris, il est dans son rôle de manager d'équipe. Il va dynamiser, stimuler et regrouper son équipe pour repartir au combat. Benzema, c'est un manque, c'est une absence. Mais je pense que dans les minutes qui ont suivi l'annonce du forfait, Deschamps s'est tout de suite projeté dans la suite. Et la suite, il l'avait sans doute déjà anticipé. Et je pense qu'il va se servir malheureusement de l'événement Benzema pour repartir sur un autre schéma, repartir sur une dynamique différente, mais qui a aussi des avantages comme on l'a évoqué précédemment. Donc il va se servir de tout cela et ça peut donner un très bon résultat. Parce que justement, dans les médias, dans le public, on s'attend à de grandes difficultés et je pense qu'on va ressurgir.
Les copains, après, il va falloir un leader sur le terrain.
Ben, on en a
parce
déjà,
que le leader
Mbappé,
en 2018, c'était Pogba.
Mbappé,
le leader, on va dire, à peu près né,
Mbappé va être le roi du pétrole.
C'était Karim Benzema. Donc il va falloir que Kylian Mbappé prenne ses responsabilités et soit le leader de cette équipe. Et surtout si malheureusement, et je l'espère pas, ça commence pas très bien.
J'ai une phrase qui m'a alerté, et Loïc Braillet l'a cité, c'est la phrase de Karim Benzema sur les réseaux sociaux. De ma vie, je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe. Ta lecture,
ça,
Jean-Louis. Non, mais on a l'impression qu'en fait,
il voulait rester éventuellement
avec les éléments d'engagement.
Il voulait rester pour jouer à la fin.
Non, mais attends.
C'est comme ça que je le lis. Zidane en 2002. C'est-à-dire que je voulais rester.
Je suis certain que c'est lui qui l'a écrit.
En tout cas,
il a validé le message qui était dessus. Mais non, là où je pense que là où JC veut arriver, c'est qu'au moins on s'évite un feuilleton à la Zidane 2002. Et ça, c'est sûr que d'avoir un joueur Vieira aussi, il me semble en 2004,
2008.
C'était la même chose.
Ouais.
À 2008, ouais. Où toute la compétition, on se dit on s'inquiète de l'état de forme du joueur, et puis on se dit il pourra être là pour le troisième match, pour le huitième de finale, et du coup tous les regards sont braqués vers lui. On fait fi complètement du remplaçant qui doit jouer à sa place. Et ça, Deschamps, on sait qu'il aime pas ça. Et je pense que Benzema, peut-être au fond de lui, se disait peut-être que je pourrais espérer un peu plus tard dans la compétition, etc. Mais pour le bien de l'équipe, il vaut mieux déclarer forfait. Oui, moi, je suis plutôt d'accord avec ça.
Oui, mais on a l'impression qu'il voulait rester. Enfin, en tout cas, je le lis entre les lignes. Comme
ça. Ils veulent tous rester et essayer jusqu'au bout. Mais après, il y a un principe collectif.
C'était la dernière chance pour lui d'aller remporter la Coupe du Monde. C'était un objectif énorme.
Moi, je pense qu'on est dans une situation où il y a une chance inespéré pour des joueurs pour se révéler et percer au plus haut niveau. Voilà. Moi, c'est comme ça que je ressens le truc. L'équipe de France, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont
Ribéry
avait
été capable de le faire en 2006,
exactement,
ça, on va voir.
Exactement. Et je pense qu'il y a des joueurs qui doivent profiter de ce moment.
Ok, Pascal.
Il y a aussi la rédemption possible de Giroud, qui est à deux buts du record historique des buts marqués en équipe de France.
De Thierry Henry.
Et qui, au championnat d'Europe dernier, s'est retrouvé sur le banc et aussi mêlé à une polémique, comme quoi il traînait un peu les pieds pour avec son statut de remplaçant. Donc il va être forcément un attaquant en vue lors de ce mondial et il n'avait pas marqué lors du dernier. Ça n'avait pas empêché la France de gagner la Coupe du Monde. Donc je vois ça d'un bon œil également, d'autant qu'il est en forme.
Quel destin pour Karim Benzema et quel destin pour Olivier Giroud,
qui n'était pas du tout sur la liste au départ. On avait plein de débats en disant il va jamais être sur la liste, il va pas jouer. Taleko, ça va être l'élément essentiel. En tout cas, l'attaquant mis en premier. Et
avant même que la Coupe du Monde ne commence.
Jean-Louis, tu voulais ajouter. Et après, je voudrais rapidement évoquer peut-être le joueur qui pourrait le remplacer ou pas. En tout cas, ce que vous feriez vous, Jean-Louis, tu voulais rajouter quelque chose.
Non, juste quand on se dit il faudra trouver des leaders pour cette équipe de France. Je trouve quand même qu'il y en a. Partons du principe que Varane sera apte physiquement. C'est un leader. Il y a quand même encore Antoine Griezmann, il y a quand même Kylian Mbappé, il y a quand même Hugo Loris. Et en plus de ça, on parle des joueurs qui peuvent se réveiller.
Ah non,
Ah non, bah, il est leader, il est capitaine depuis 15 ans.
Ouais, mais capitaine, quand même. Arrête tes bêtises. Il est leader de...
Ah bah quand même.
Le saccage. Il est leader de saccage. Tu veux ça, je te l'octroie.
Non, oui, c'est un leader de l'équipe de France aussi, dans le vestiaire.
On va pas le
et en plus de ça, un joueur qui peut se révéler. Moi, je vois très bien Aurélien Tchouaméni devenir un joueur incontournable à la fin de cette Coupe du Monde. Il a l'étoffe pour pouvoir se révéler. Ça arrive aussi en cours de compétition, aussi, ce genre de choses.
Bon, Pascal, toi, l'entraîneur de foot que tu es à la place de Didier Deschamps. Tu fais quoi? Tu rappelles quelqu'un, mais forcément un second couteau, s'il n'a pas été pris dans la liste des 26, c'est que c'est évidemment pas un joueur, sans lui faire offense, de premier choix. Est-ce que tu prends quelqu'un pour faire le nombre, ou est-ce que non, tu te dis, je reste comme ça, j'ai suffisamment d'attaquants?
Avant le Mondial, on disait que Deschamps allait ne prendre que 23 joueurs, il en a pris donc 26. Suivant sa logique, si j'étais à sa place, je rappellerais Wissam Ben Yedder, ça c'est sûr. Ouais.
Ok, c'est pas parce que t'es un ancien Toulousain que tu dis ça. Hein.
C'est aussi parce que j'ai une grande affection pour Wissam. J'ai une grande affection pour Wissam, mais parce qu'il a des caractéristiques que peu de joueurs ont aujourd'hui en équipe de France, capables dans la surface de réparation de débloquer un match. Donc il peut être utile. Il a l'expérience, 19 sélections, même s'il n'a pas donné la quintessence de ses qualités en équipe de France, il a peu joué. Je pense que Didier Deschamps va le rappeler. Je l'espère en tout cas.
Ok, Jean-Louis, toi qui connais ton Didier Deschamps par cœur, il va rappeler quelqu'un ou pas?
Moi je pense qu'il va rappeler quelqu'un. T'as la chance de pouvoir faire une Coupe du Monde à 26, tu peux... ne te prive pas de cette chance. En revanche, pas sûr qu'il prenne un avant-centre. C'est un peu ce qui circulait avec la cellule équipe de France. Il avait déjà plus ou moins anticipé avec la présence de Marcus Thuram. Il y a beaucoup d'attaquants. Peut-être un milieu offensif pour pouvoir jouer différemment en cours de match ou en cours de compétition. Voilà, c'est une possibilité.
Ok, pas un défenseur central, rassure-nous.
C'est possible, on n'a peut-être pas assez. Des axes droits, je pense qu'il en manque un peu.
Ça, c'était évidemment pour taquiner un petit peu. Vous connaissez mon esprit un petit peu. Il est 9h28, 11h28 au Qatar. Sachez que si vous voulez reparler de Karim Benzema, forfait donc pour la Coupe du Monde, n'hésitez pas, ce sera aux alentours de 11h40. Mais forcément, dès qu'il y a une réaction, nous suivons ce dossier, notamment Didier Deschamps et Antoine Griezmann, qui seront les invités de Téléfoot ce matin. Forcément, on suivra leur réaction et on vous les donnera à l'antenne. On revient dans quelques instants, on continue de parler de l'équipe de France sur un tout autre sujet, le brassard arc-en-ciel, pas arc-en-ciel, que va faire Hugo Lloris. En tout cas, ça a été une semaine un peu houleuse. On vous explique tout ça dans quelques instants, c'est la punchline des GG. À tout de suite.
Offre et conditions disponibles en boutique et sur orange.fr.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
9h32, heure française, 11h32, heure Qatar, et on est de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, avec Jean-Louis Tour ce matin, Marion Bartoli, Pascal Duprat, Marc Madio, c'est le grand jour, avec le début de la Coupe du Monde RMC, radio officielle de cette Coupe du Monde de la FIFA 2022, le match d'ouverture. D'ailleurs, vous serez en compagnie de Jean-Louis Tour tout à l'heure sur RMC, c'est à 17h, avec cette rencontre entre le Qatar et l'Équateur. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG. On va faire une parenthèse foot. Hein. À 10h45, il y aura un zapping mondial avec notamment les inquiétudes en Argentine sur le cas Lionel Messi qui s'entraîne à part. Mais sachez que dans une dizaine de minutes, on parlera notamment de Djoko en finale du Masters, où ça, c'est encore plus pour Marion Bartoli. C'est Max Verstappen qui a signé la pole position, voilà, du dernier Grand Prix de la saison. Et je sais que tu as un poster dans ta chambre de Max Verstappen.
Plutôt pour lui lancer des fléchettes.
Voilà, plutôt une... poupée vaudou, c'est vrai. Mais tout de suite, on va reparler foot, évidemment.
RMC. Coupe du Monde 2022.
C'était l'un des sujets de la semaine qui n'est pas encore totalement tranché. L'affaire du brassard pour les capitaines de sélection, portera, portera pas, arc-en-ciel par arc-en-ciel, alors que la FIFA est restée floue durant de nombreuses semaines, l'instance du football a dégainé hier en catastrophe une proposition de nouveaux brassards pour la bonne cause, avec un message différent à chaque match. Un temps, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, devait arborer un brassard arc-en-ciel pour défendre la cause LGBT et les minorités, avant de renoncer sous la pression du président Noël Le Graët et le silence de la FIFA. Hugo Lloris, c'était cette semaine la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respecte notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça.
Voilà, c'était plutôt non pour Hugo Lloris. Alors je vous pose la question, vous l'avez entendu, le capitaine de l'équipe de France, d'accord ou pas d'accord avec lui, Marc Madiot?
Ah, petit problème, plutôt d'accord.
Plutôt d'accord, Jean-Louis Tour.
Pas d'accord.
Pascal Duprat.
Pas d'accord.
Marion Bartoli. Plutôt pas d'accord. Il y en a un qui est plutôt d'accord, c'est Marc Madiot. Vas-y, tu commences.
Oui,
Marc.
Je m'explique sur le sujet. Je pense que quand on va dans un pays, on respecte les règles et les lois du pays. Si on n'a pas envie de les respecter, on reste à la maison. On peut donc rester chez soi. Le deuxième point, quand on a envie de s'engager, on le fait individuellement. C'est-à-dire que si Hugo Lloris ou n'importe quel joueur a envie de s'exprimer sur le sujet, il le fait à titre personnel, dans une communication personnelle. Mais à partir du moment où on est dans la vie d'un groupe, la vie d'une équipe, la représentation d'un pays, on se doit d'avoir une grande neutralité. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Et moi, je l'ai vécu en interne avec un de mes coureurs. C'est pour ça que je suis sur cette position. Avant, j'aurais été sans doute comme mes amis, comme vous, à dire « non, c'est pas bien ». Et moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Et ce qui se passe souvent... c'est que derrière, ça se retourne dans l'autre sens. C'est-à-dire que là où on croit faire une bonne action et soutenir une cause, c'est la cause qui va se servir de vous. Et ça, c'est pas bon.
Ok, qu'est-ce qui t'est arrivé précisément?
Moi, il m'est arrivé avec un coureur italien au départ du Giro en Hongrie, qui, lors de la présentation des équipes, a mis un brassard LGBT, qui partait d'une bonne intention de sa part. C'est un coureur, Jacopo Guarnieri, qui est très engagé à titre personnel. Aucun souci. Sauf que là, il le faisait dans le cadre d'une compétition internationale qui était le départ du Giro en Hongrie, et il le faisait au sein d'une équipe. Et ça, pour moi, ça pose problème, parce que ça, c'est une perturbation sportive, notamment, mais qui va au-delà du sportif. C'est-à-dire que moi, je lui ai conseillé de ne plus s'exprimer en Hongrie, parce qu'en fait, il y a des médias qui ont essayé de profiter du moment et de la situation pour le faire rebondir justement en Hongrie pour créer de la polémique. Moi, je lui dis, tu ne communiqueras que quand tu seras rentré en Italie et à titre personnel. Ce qu'il a fait, mais ça n'intéressait plus personne.
Je rappelle qu'une loi a été divulguée interdisant la promotion de l'homosexualité en Hongrie. Ça, c'était en 2021. Et j'imagine.
Mais j'ai envie de dire, quelle que soit la cause, je pense qu'on a, quand on est dans une sélection, dans une représentation, on a un devoir de réserve. Ça n'empêche pas les gens de pouvoir s'exprimer à titre individuel quand ils sont en situation individuelle. J'ai pas de souci avec ça. Mais quand on vit dans un groupe, et en plus, mais bon, ce sera ma conclusion, le sport, c'est un endroit de retrouvailles, c'est un endroit où on échange, où on discute. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées, mais on se retrouve sur un socle dur qui est le sport, et là, en l'occurrence, le football.
Ok, pas d'accord. Pascal Duprat.
Quand il s'agit, par exemple, du racisme, lors du dernier mondial, tous les joueurs mettaient un genou à terre. Donc là, ça posait pas de problème. Et puis tout d'un coup, on est en train de parler des minorités. On avait là l'occasion de le faire, en tout cas, de préserver l'espace de chacun, les us et coutumes des uns et des autres. Et puis la fédération et Hugo Lloris ont cru bon de ne pas le faire, mais à contrario, les Allemands, les Anglais, ça leur posera pas de problème de porter un brassard arc-en-ciel. Voilà, c'était en fait, il s'est fait piéger, ça j'en suis certain. Mais bon, je pense que si les équipes mettent un brassard arc-en-ciel, eh bien, je trouve que c'est bien, voilà. Et je suis d'accord aussi avec Marc. Le sport, c'est d'abord l'expression du sportif sur le terrain. Mais c'est pour autant des hommes et on a le droit d'exprimer ses ressentis, aussi ses opinions.
Ouais, tu l'as dit en tout cas, Pascal, l'Angleterre a déjà déclaré par la voix du président de la fédération qui dira, même si c'est interdit, pour l'instant ça ne l'est pas évidemment, mais même si c'est interdit, je porterai un brassard quoi qu'il arrive, même si on a une amende. Et hier, le capitaine danois Christian Eriksen a également dit, peu importe, on verra quelles seront les conséquences, mais moi je porterai le brassard. Jean-Louis, pas
et
d'accord.
Et l'Allemagne également.
Ouais, moi, il y a deux choses qui me posent problème. J'ai l'impression déjà qu'il y a une espèce de confusion dans ce que dit Lloris entre respecter les coutumes et la culture locale et une question qui a trait aux droits de l'homme et un droit qui devrait être universel, qui est le droit à l'homosexualité. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on met tout sur le même plan. C'est-à-dire que évidemment, nous on est ici à Doha, si on va visiter une mosquée, on enlèvera nos chaussures, il n'y a pas de souci, on sait quand même respecter les coutumes locales. Mais c'est pas la même chose ça que de manifester quand même son désaccord sur un droit de l'homme qui devrait être accessible à tous et qui n'est pas le cas ici puisque l'homosexualité est interdite. Donc ça me pose un premier problème. Et le deuxième problème, c'est l'attitude de Noël Le Graët, parce que si Hugo Loris ne s'engage pas, c'est parce que son président ne veut pas s'engager, parce que je pense qu'il y a des intérêts derrière et il n'a pas envie de se mettre mal avec les Qataris. Et Noël Le Graët, je lui ai dit quand il est venu dans Rotten sans flamme la semaine dernière, j'aurais aimé que, en tout cas c'est mon opinion, hein, après chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais que la France, pays des droits de l'homme, sachant que d'autres nations vont manifester des choses symboliquement, eh ben j'aurais, ça me déçoit un peu que la France soit à la traîne sur ce sujet, alors qu'on devrait être justement leader de ça et que d'autres pays vont avoir plus de courage que nous.
D'ailleurs, un podcast à retrouver, un interview, c'était mercredi, l'interview de Noël Le Graët, un podcast à retrouver sur rmcsport.fr et tous les sites de téléchargement. Rapidement, Marc,
oui,
et après Marion.
Je pense que c'est un peu facile de se retourner contre le président Le Graët. Si Loris ou des joueurs avaient vraiment eu l'envie de le faire, il l'aurait fait, ils auraient obéi au président.
Tu penses, parce que il le dit même dans sa conférence de presse et dans le son qu'on a écouté, je me range derrière mon président, c'est ce que dit Hugo Lloris. Ouais. Enfin, bon. Tu crois pas trop, ok Marion.
Moi, en fait, je suis d'accord avec Marc, mais par contre, c'est plus la forme qui me dérange que le fond. Sur le fond, sur l'analyse de Marc, je suis d'accord avec lui. En revanche, la forme me gêne et effectivement, ce manque de courage transpire tellement que ça me dérange, comme explique parfaitement Jean-Louis. Mais par contre, l'initiative, parce qu'en fait, il y avait une espèce de flou. Au départ, la FIFA avait tout interdit. Et puis là, la FIFA, finalement, voyant effectivement une certaine levée de bouclier avec l'Allemagne qui a décidé quand même d'aller contre ça, l'Angleterre qui a décidé d'aller contre ça, tu l'as évoqué, le Danemark également, ils se sont dit, tiens, on va quand même faire quelque chose. Donc, ils nous ont sorti des campagnes réparties en termes de phases de groupe. Donc, tu as une phase de groupe avec journée 1, un certain hashtag, journée 2, un autre hashtag, phase de groupe journée 3, huitième de finale, quart de finale, etc., etc. Donc, on voit qu'ils essayent de faire quelque chose, mais ils doivent aussi, bien évidemment, composer avec les lois qataris et donc ne pas heurter le pays hôte. Donc, sur le fond, je comprends que ça soit un sujet assez embarrassant. Sur la forme, j'aurais aimé quand même un tout petit peu plus de courage.
Qu'est-ce que craignent donc les joueurs de l'équipe de France ou le président de la fédération, si ce n'est une amende? Et là où je te rejoins pas, Marion, c'est quoi un acte de courage? C'est le fait de porter un brassard arc-en-ciel alors que tu es capitaine de l'équipe de France? C'est pas un acte de courage,
en fait, c'est de prendre position, disant même si effectivement la FIFA nous a pas réellement autorisé à le faire, comme le font les autres équipes. Hein, Harry Kane, il a dit effectivement, moi je désire arborer ce symbole-là contre l'Iran, je vais le faire, quelles que soient les conséquences, et avec son président qui.
S'il fallait aller au front en Ukraine, si on demandait aux joueurs de l'équipe de France d'aller au front en Ukraine, ça serait un acte de courage. Mais là, il s'agit de porter un brassard pour lutter contre des discriminations.
Mais tu as des lois locales et on connaît très bien les lois qataris là-dessus.
Et parce qu'il y a des lois locales, alors
c'est une certaine forme de courage.
Aucun individu sur cette terre, aucun journaliste ne doit donc dénoncer l'oppression ou la limitation des droits de l'homme.
Ça c'est un autre sujet, mais tu peux être d'accord.
Mais c'est le sujet qu'on aborde à l'instant.
Mais c'est une réalité. C'est une réalité sur, et Jean-Louis est dans le pays actuellement, il peut le voir, c'est une réalité. Les lois qataris et en tout cas la mise en application des lois au Qatar n'a rien à voir par rapport à la France, et on le sait très bien. Et les conséquences de ça n'ont rien à voir non plus.
Si les 32 capitaines qui participent à cette Coupe du Monde, des nations qui participent à cette Coupe du Monde, décident de mettre un brassard arc-en-ciel, on froisserait tellement le Qatar qu'il interromprait la compétition. C'est là l'occasion
Il peut y avoir des conséquences à un niveau du pays au-delà du sport qui peut avoir des répercussions.
On s'est tapé sur les doigts même.
En tout cas,
mais c'est même pas une histoire de conséquences et de sanctions. C'est on est sur le fait de s'engager individuellement et de vouloir qu'un capitaine ou un président s'engage pour son équipe, pour son pays. Moi, ça me va pas. Je trouve que l'engagement.
Je trouve que ça renforce la symbolique.
Non, moi, je remarque que c'est collectif là, la demande qui est faite.
Moi, je crois plus à l'engagement individuel qu'à l'engagement collectif, qui est facile.
D'accord.
Okay. Les copains, on va refermer ce débat. Juste pour vous préciser que Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a déclaré sur BFM RMC vendredi matin qu'elle essaierait en tout cas et qu'elle n'était pas contre le port d'un brassard de cette équipe de France, que ça ne venait pas d'en haut de l'Élysée, mais voilà, qu'il fallait aussi demander à la FIFA son accord, ce que la France a demandé et la FIFA n'a pas répondu. Voilà, pour être complet sur le sujet.
Non, mais attends,
copains.
Ouais, si on en est réduit à demander à la FIFA si on peut mettre ou pas un brassard, c'est encore pire.
Ouais,
c'est encore pire.
Ben oui, mais c'est que c'est en fait la France a demandé à la FIFA, alors que les autres nations ont dit même si on prend
une amende, c'est juste pas possible. Si on n'est plus capable de prendre tout seul une décision sans faire référence à la FIFA, c'est grave. Hein.
Ça a été comme ça, ça s'est passé. Comme ça.
C'est un peu le cas.
Ben ouais, ben c'est grave. Ouais.
Je suis désolé, Marc. Je sais, c'est pas de ma faute. Mais je suis pas désolé. On va embrasser Jean-Louis Tour qui n'a pas d'appel à la prière. On l'a entendu il y a quelques instants, mais l'appel à la cantine. Il n'a rien à voir. Jean-Louis, on te retrouve à partir de 11h.
Oui, ben je sais pas si je serai.
Mais si, tu seras là avec nous, évidemment.
Tremble au moment de me redire bonjour parce que je serai peut-être pas là.
Très bien. Un débat foot avec toi, ce sera à 11h le bras de fer des GG. Cette Coupe du Monde, est-ce que ce sera forcément une fête? Il y a encore des polémique. Vous vous en doutez, on en parlera à partir de 11h. Merci beaucoup, mon Jean-Louis.
T'as jusqu'à 11h pour réviser tous les noms des joueurs de l'équipe Qatari, Jean-Louis.
C'est bon, j'ai l'équipe sous les yeux.
D'ailleurs, à mon avis, Jean-Louis sur ce bras de fer sera tout seul. Mais il va se débandre, va se défendre face aux trois autres GG. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping. Nous allons vous parler de Novak Djokovic ou encore de Max Verstappen. Restez avec nous et je vous rappelle cette information, Karim Benzema est forfait pour la Coupe du Monde. On en reparle un petit peu plus tard. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h49 de retour dans les grandes gueules. C'est le grand jour avec le début de cette 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera à 17h avec le match à suivre Qatar-Équateur, le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Vous n'allez rien manquer sur RMC. Tous les matchs commentés. Les grandes gueules du sport ce matin. Marion Bartoli, Pascal Duprat, Marc Madiot et Jean-Louis Tour en direct de Doha sera de retour avec nous à partir de 11h. Marc, avant de faire un petit zapping, j'ai Raymond Anctil sur Twitter qui me dit salut, est-ce que Marc pourra répondre à ma question que je pose depuis le début de l'année, vaut-il mieux finir quatrième du Tour de France ou gagner une étape?
Vaut mieux finir quatrième.
Ok, bah voilà.
La réponse.
Tu dis ça pour David Gaudu?
Oui.
Oui, très bien. Non mais parce qu'on pose la question, alors moi je me dis pourquoi déjà ça n'a rien à voir avec la choucroute ni avec notre émission du jour, mais je me dis bon bah je vais lui rendre service parce que s'il pose la question depuis le début de l'année, je me dis qu'on est quand même le 20 novembre.
Oui, ça fait longtemps qu'il y a lui bon.
Donc au moins on lui répond avant la fin de l'année.
On a un bon mois devant nous.
Voilà, on t'embrasse mon cher Raymond et on embrasse aussi toutes les personnes car on est en direct sur Twitch. Voilà, si vous voulez nous admirer, voir ce beau Marc Madio, n'hésitez pas. Mais bien sûr, mais on est là
on
pour
est
les jeunes.
Vraiment une prod à l'américaine.
Mais les jeunes, voilà, ils veulent du Twitch, ils veulent des Twix, ils veulent tout ce qui commence par ça. Voilà. Bref.
Et des tweets aussi.
Oui. Bien sûr. Voilà. Les copains, à partir de 10h, on ouvre une petite parenthèse rugby, ça vous dérange pas? France-Japon, c'est à 14h.
Il y a encore du rugby.
Mais oui, il y a le troisième match de la tournée, mon cher.
Ah ouais.
Mais oui.
Je savais pas.
Et c'est un match pour du beurre, paraît-il que c'est le match le plus important. Mais toi,
mais jamais. Je crois pas que c'est la dynamique, mais t'es malade ou quoi?
Oui.
Moi, j'aime bien le demi-sel.
On aura ce débat dans quelques instants. Allez, tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est Novak Djokovic en finale du Masters. On s'en fout pas. Marc Madiot.
On s'en fout pas.
Ok. Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Mario Bartoli.
Je m'en fous pas.
Djokovic s'est donc qualifié hier à Turin pour sa 8e finale des Masters en 15 participations en battant l'Américain Taylor Fritz. Ça a été compliqué tout de même. 7-6, le Serbe. 8e mondial tentera aujourd'hui contre Casper Ruud d'égaler le record de 6 titres dans ce tournoi détenu par, évidemment, elle connaît tous les records, Roger Federer. Merci Marion. Bah Marion, tu prends la main. D'ailleurs, il visera le second titre majeur de la saison après Wimbledon. Ça pourrait être le Masters. Il est largement favori, Djoko, cet après-midi.
Bien sûr, mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que le dernier match de poule qu'il a joué, il jouait contre Dani Medvedev avec un match sur le papier sans aucun enjeu, puisque Dani était déjà éliminé et Novak était déjà qualifié pour les demi. Et ils se sont étripés pendant 3h10. Et Novak a déclaré à la fin du match, il était très important pour moi de remporter ce match sur le plan psychologique, de battre Dani, c'est un de mes concurrents les plus directs. Et il l'a payé un petit peu physiquement hier sur Taylor Fritz, où ça a été plus dur dans les déplacements latéraux, ça a été plus dur de garder les longs échanges, mais il a vraiment remporté ce match au métier et à l'expérience sur un Taylor Fritz qui m'a vraiment étonné depuis le début de la compétition, où en indoor il était extrêmement performant. Et là, il arrive favori sur Casper Ruud. Pour moi, joueur qui pouvait vraiment le gêner avec son jeu tourné très vers l'avant et les services volés, c'était Stefanos Tsitsipas qui, lui, s'est incliné contre Rublev. Donc là, il a vraiment, effectivement, sur le papier, mais encore une fois, ça reste du sport, donc tout est possible, un boulevard pour aller remporter ce Masters.
Rapidement, le regard sur Djoko et sur cette information, Marc Madiot.
Moi, j'aime bien sa hargne. c'est un joueur hargneux et il va souvent à contresens. Il lâche rien, il va à contresens. Moi, j'aime bien.
Ok, t'aimes bien les gens qui sont un peu détestés, hein, en tout cas, moins idolâtrés que les autres.
Je ne déteste pas.
Non, mais c'est vrai que oui, je vois parfois cette image,
en tout cas, loin de celle de Rafa Nadal.
En tout cas, il a des convictions.
Il s'y tient. Il a des convictions, il s'y tient.
Ça ne m'étonne pas. Pascal.
Non, c'est le grand champion, l'expression du grand champion. Il a la classe et une capacité de résilience hors norme. Et puis aussi un aspect que je voulais souligner, c'est 4,7 millions si jamais il gagne le match à la finale. Parce que comme on parle souvent, on stigmatise souvent l'argent dans le football, mais ça existe aussi dans d'autres sports.
C'est pas net. Il va en laisser quelques pourcentages de taxes en Italie.
Si vous pouviez nous en donner un.
Il est plus à sa près, ça je te le dis. Il est plus à sa près.
J'adore, Pascal est venu mettre son petit coup de rap à Marion tranquillement. Là, les 4,7 millions, là c'est sorti. Bravo mon frère.
D'abord c'est bon. C'est brut, c'est pas net.
Oui,
et de deux, je peux dire
nous,
qu'il est vraiment pas à sa
prête. La lutte continue, Pascal. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est la dernière pole position de la saison pour Max Verstappen. On s'en fout pas. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Ok.
On s'en fout pas.
Marion Bartoli.
On s'en fout.
Voilà, merci. Pour les dernières qualifications de la saison à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est un tracé que tu aimes bien. Hein. Max Verstappen, Marion Bartoli. Max Verstappen a pris la pole position devant son coéquipier Sergio Pérez. On en parlait d'ailleurs de la bisbille entre les deux hier. Il devance les Ferrari, les Mercedes, Ocon et 8e, Pierre Gasly, 17e. Pascal.
De succinctement, meilleure voiture et meilleur pilote, c'est encore une fois confirmé.
Ok, Marc.
Moi, j'attends de voir ce qui va se passer avec Pérez. Ça m'intéresse aujourd'hui.
On va dire que c'est le dernier enjeu de la saison, savoir si Pérez va réussir à être deuxième au classement général, sachant qu'il a égalité avec Charles Leclerc.
Et quelle va être l'attitude de Verstappen vis-à-vis de Pérez si la situation l'impose.
Le dernier Grand Prix, il a dit, attendez, me demandez plus de le laisser passer. Mais là, il a peut-être mis un peu d'eau dans son vin.
On va voir.
Ou un petit peu de Red Bull. Vous avez compris. Ok, les copains, pour ce zapping, juste quelques informations à vous donner. Vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la Coupe du Monde sur notre site rmcsport.fr. Les dernières informations sont toutes chaudes concernant la composition probable de l'équipe de France face à l'Australie. C'est mardi soir à 20h. Hugo Lloris dans les buts. En défense, Pavard, Konaté, Upamecano, Lucas Fernandez. Au milieu de terrain, Tchouaméni en pointe basse, Griezmann, Rabiot en relayeur, Dembélé, Giroud, Mbappé. 10 secondes là-dessus sur cette composition. Non, il n'y a pas Jean-Louis Tour. Pascal Duprat,
quand à l'énoncé de l'équipe, si c'est celle-ci, c'est une équipe résolument offensive. Donc,
la vaut mieux être offensive contre l'Australie quand même.
Ouais, mais il n'y a pas de petite nation. Très difficile. Il faut regarder le nombre de matchs. Gagnés par des équipes qui sont détenteurs de la Coupe du Monde pour s'apercevoir qu'il y a peu d'équipes qui gagnent leur premier match alors qu'elles avaient gagné la dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit là.
Moi j'ai compris que quand on a gagné la Coupe du Monde, le match après, pour la Coupe du Monde, c'est compliqué.
On a du mal à le gagner.
Merci parce que de toute façon on remet les mots dans l'ordre. Tu sais, on n'est pas en direct. On coupe en plein milieu des énoncés. Tu vas voir, c'est une catastrophe. C'est sport.fr pour avoir toutes ces informations concernant l'équipe de France. Et je vous rappelle évidemment, Karim Benzema est forfait pour le mondial. Nous en avons parlé à 9h. On en reparlera dans cette émission. À partir de 10h, du rugby, France-Japon et 5 matchs pour du beurre. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.